La dernière fois, je vous avais laissé en faisant un portrait de Jules Barthélémy Saint-Hilaire, seul ministre des Affaires étrangères qui ait fait une histoire du prophète. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans l'histoire de la diplomatie française qui porte ça à son actif. D'ailleurs, c'est le seul aussi qui a traduit Aristote. Il y aura d'ailleurs, pour mémoire, un second professeur au Collège de France qui sera ministre des Affaires étrangères, c'est le chimiste Berthelot. Quelques mois, il aura juste le temps de faire passer son fils dans la diplomatie. C'est à peu près le seul impact notable de sa gestion du ministère des Affaires étrangères. Mais bon, revenons à des choses plus sérieuse. Je n'étais donc qu'en train de vous évoquer les conditions dans lesquelles l'intervention française en Tunisie a eu lieu en 1881, dans la mesure où l'Allemagne d'un côté et la Grande-Bretagne de l'autre côté avaient suggéré à la France qu'il serait temps qu'elle s'empare de la Tunisie. Et dans cette affaire, donc, Barthélémy Saint-Hilaire est très proche de Jules Ferry, qui est le président du Conseil et ministre de l'Enseignement public. Je vous rappelle que sous la Troisième République, jusqu'au début des années 30, la fonction de président du Conseil n'est qu'une fonction officieuse. Il n'y a pas de présidence du Conseil en tant qu'institution. Donc, le président du Conseil a toujours un ministère. Ferry était instruction publique. Sinon, souvent, il cumulait les affaires étrangères ou le ministère des Finances et le président du Conseil. Il faut attendre 1935, la création de l'hôtel Matignon, pour que la présidence du Conseil soit dotée d'une administration indépendante et exerce la totalité de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fonctions de Premier ministre. Ceci est pour votre culture générale. Le problème, c'est l'hostilité de l'opinion publique française à une aventure coloniale. On a le souvenir de la catastrophique expédition du Mexique sous Napoléon III. La paysannerie française qui fournit les soldats, elle aussi, elle n'est pas très heureuse à l'idée de voir ses enfants tués un peu partout dans le monde. Mais l'idée principale du groupe des Républicains qui relance l'expédition coloniale, l'expansion coloniale, c'est une phrase qui va revenir périodiquement dans toute l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenir le rang de la France. Le mot se trouve déjà en 1880, comme on le retrouvera un siècle après chez François Mitterrand à propos de l'Irak en 1990-1991. C'est le mot clé pour comprendre la politique étrangère de la France. Sur place, c'est la querelle des consuls avec le célèbre consul de France Théodore Roustan qui pousse à une intervention militaire française, et Roustan va trouver le prétexte dans une incursion d'une tribu bédouine du secteur, les Croumires. À partir du fait réel qu'il y a quelques troubles dans la tribu des Croumires, on va créer toute une source qu'on va faire monter pour justifier l'intervention française. Donc Paris interroge l'ambassadeur de France à Constantinople, Tissot, qui est lui aussi partisan. C'est un ancien archéologue, hein, Tissot. Tissot était partisan de la conquête de la Tunisie et qui, depuis 2 ans, alimente Paris de dépêches sur la grande conspiration pan-islamiste qui tramé par le sultan Abdelhamid pour ruiner l'empire colonial français. Tissot va expliquer à Paris que derrière les Croumires, il y a la conspiration pan-islamiste contre la France. Et dans l'affaire, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle pas très clair. Alors, comme c'est d'habitude de considérer quelqu'un comme un gentil dans l'histoire, c'est toujours un peu gênant qu'on le rappelle, c'est le fameux Reheddine, l'ancien premier ministre tunisien et réformateur, parce que le principal problème de l'affaire tunisienne, enfin, qui va servir de prétexte au départ, c'est que Reheddine a quitté Tunis pour exercer les fonctions de grand vizir à Constantinople pendant quelques mois, et qu'au passage, il a vendu ses propriétés foncières aux Français. Et les consuls britanniques et italiens tentent à s'opposer à l'achat des propriétés de Reheddine par les Français, parce que ce serait un pas de géant dans la progression de la conquête économique française en Tunisie. C'est ce que j'ai rappelé la dernière fois en appelant ça le morbus consularis, ces oppositions de consuls sur place. Et donc Tissot va consulter Reheddine, qui laisse entendre qu'il est prêt à être bey à la place du bey de Tunis si les Français veulent bien de lui. En tout cas, dans la dépêche, Reheddine refuse de reconnaître toute qualité califale au sultan Abdulhamid. Donc, je cite la dépêche du 23 janvier 1881. « J'ai également la certitude qu'Abdulhamid incline à affirmer plus que jamais qu'il n'a fait jamais aucun de ses prédécesseurs ses prétendus droits sur la régence de Tunis. Il ne s'agit pas ici seulement de la suzeraineté spirituelle qu'il peut plus ou moins légitimement revendiquer en sa qualité de calife. Ce qu'il affirme, ce qu'il prétend établir, c'est le lien politique qui, au dire de la porte, n'aurait jamais cessé d'exister entre Constantinople et le Beylik. Un entretien que j'ai eu dernièrement avec Reheddine Pacha ne me permet pas de mettre en doute ces tendances du sultan. Il n'y a pas de calife, m'a dit l'ancien grand vizir. Tout musulman instruit sait que ce titre n'a été reconnu qu'au premier successeur de Mahomet. Le titre de calife porté depuis par les différents souverains qui régnaient simultanément sur le monde musulman n'a pas de valeur au point de vue religieux, c'est un titre politique. Et quand le sultan parle des droits que sa qualité de calife lui confère sur Tunis, tenez-vous pour certain que ce sont des droits politiques qu'il entend affirmer. Donc on voit que la question porte aussi sur la qualité de calife ou non du sultan Abdulhamid. Toujours est-il que la France envoie au début de février 1881 un navire de guerre, le Friedland, au large de la Tunisie, ce qui provoque une protestation britannique. Alors, comme on ne veut pas dire que toute cette manifestation militaire a lieu à propos d'un conflit sur des propriétés, la France va ressortir comme excuse adressé aux Britanniques, le complot pan-islamique. Je cite une dépêche du 4 février 1881 à destination de l'ambassadeur britannique à Paris, Lord Nunes. Le mouvement du Friedland a été décidé à la suite de renseignements très alarmants qui étaient transmis de Constantinople et qui représentaient comme imminente une tentative de la porte ottomane pour établir sa domination sur la Tunisie. Il est à la connaissance du gouvernement français et sans doute aussi du gouvernement britannique que le sultan Abdulhamid poursuit depuis quelque temps dans tous les pays musulmans des desseins secrets qui, au fond, sont aussi hostiles à l'Angleterre qu'à la France et que le cabinet de Londres, par conséquent, ne saurait voir d'un œil favorable. Les intelligences mystérieuses entretenues par le sultan actuel s'étendent jusque parmi les populations musulmanes de l'Inde et c'est probablement à son instigation qu'est due ce récent complot islamique découvert en Inde, à Kolhapur. Alors là, l'information sur le complot islamique vient de l'ambassade de France à Constantinople. Donc, on a là exactement l'invention d'une menace pour justifier l'invasion française de la Tunisie, on invente un complot pan-islamique qui est totalement inexistant dans les faits. Ce qu'on peut appeler à d'autres époques du bon usage du terrorisme, des armes de destruction massive, enfin de destruction massive, etc. Alors, il est certain que depuis l'expédition d'Égypte de 1798, les responsables ottomans ont pris conscience de la vulnérabilité des Britanniques en Inde, qui doivent tenir compte de l'opinion publique musulmane. Et la grande révolte des Sipayes de 1856, la fameuse mutinerie, comme ça, est là pour le rappeler. Et donc, le moindre soulèvement local, le moindre trouble local est toujours considéré comme un signe inquiétant, puisqu'il pourrait annoncer une grande révolte, à l'instar de celle de 1857. Par surcroît, nous avons le grand jeu, c'est-à-dire l'opposition entre Britanniques et Russes en Asie centrale, en Afghanistan et en Perse, c'est-à-dire en Iran actuel. Et comme maintenant on parle d'un monde musulman, pour simplifier, le monde musulman, j'ai dû le dire la dernière fois, c'est la création de l'ouverture du canal de Suez, c'est-à-dire la mise en relation de l'ensemble des pays peuplés par des musulmans par les moyens modernes de la technologie du XIXe siècle. Et donc, ce qui se passe en islam méditerranéen se répercute sur l'islam indien et réciproquement. Donc, lors de la guerre de 1877-1878, Abdul Hamid a essayé de jouer sur les musulmans indiens pour faire bouger la politique britannique. Et on a donc un système relationnel qui s'est créé, que le sultan tente d'aviver une solidarité musulmane, ce qui est déjà un thème des réformistes musulmans, afin de modifier les rapports de force avec les puissances européennes, ce qui provoque les inquiétudes des puissances européennes, promptes à déceler un complot musulman qui s'ajoute aux intrigues des autres puissances européennes dans les régions qu'ils convoitent. Alors, une fois pour toutes, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un point essentiel, la théorie du complot, c'est d'abord une théorie inhérente au système colonial européen. Les archives coloniales des différentes puissances européennes sont remplies de complots attribués aux uns et aux autres. Alors, comme toujours dans un complot, il y a l'interprétation de faits objectifs. Alors, le fait objectif, c'est qu'on est entré dans la ruée sur l'Afrique, le Scramble for Africa, puisque j'ai eu l'occasion de dire déjà, depuis 1880, c'est le début de l'ère des empires, c'est le à partir de 1880, qu'on commence à utiliser le terme impérialisme et impérialiste, au sens moderne du terme, évidemment. Et en novembre 1879, le lieutenant-colonel Flatters, le français, a été chargé de la recherche et de l'étude d'un tracé de chemin de fer qui devait partir de notre territoire algérien pour aller aboutir dans le Soudan entre le Niger et le lac Tchad. Ce sera une des grandes chimères de l'Empire colonial français, c'est de faire un chemin de fer transsaharien qui n'existera jamais parce que, encore une fois, comme disaient les autres, c'est absurde de faire traverser un désert par un chemin de fer, il n'y a rien à transporter. Mais encore en 1941-42, le régime de Vichy relancera des travaux sur le transsaharien, ce qui marque la continuité de l'administration française. Donc, en février 1880, Flatters commence sa première mission à laquelle participe, entre autres, un jeune officier de l'armée coloniale française, Alfred Le Châtelier. Les grandes oasis sahariennes sont reconnues et les contacts sont pris avec les chefs Touareg. Et en juin 1880, c'est la fin de la première mission Flatters et la seconde mission Flatters est préparée avec destination d'aller jusqu'au Hoggar. Comme on connaît l'opposition des populations, cette seconde mission Flatters doit être une démonstration de force. La part en décembre 1880, sans Alfred Le Châtelier, qui reste en arrière parce qu'on lui donne un commandement sur place au Sahara, donc il ne participe pas à la seconde mission flatteur, ce qui nous permettra de l'avoir 20 ans après comme professeur au Collège de France. Sinon, il aurait eu quelques problèmes, puisque la mission flatteur s'est massacrée le 16 février 1881 par des Touaregs. Et les seuls survivants de la mission seront des soldats indigènes de la mission, mais tous les Européens auront été tués. Et là, vous avez la photo du monument commémoratif de la mission Flatters, qui se trouve dans le parc Montsouris à Paris, et donc qui montre la mort de tous ces officiers ingénieurs français tués le 16 février 1881. Ce monument à la mission Flatters montre le choc que ça représentait, cette destruction de la colonne française. Même si l'affaire est totalement locale, les Français attribuent une influence au moins morale, une responsabilité morale sur les Ottomans qui sont en Cyrénaïque et en Tripolitaine, c'est-à-dire dans la Libye, dans l'affaire du massacre de la mission Flatters. Même affaire, c'est dans le sud oranais. Il y a eu un petit soulèvement en 1881 qui a conduit à un massacre de travailleurs espagnols. Et donc ceci, évidemment, a avivé les inquiétudes des milieux franco-algériens, enfin de Français d'Algérie, sur une menace de soulèvement musulman. Donc les Croumires tombent bien, puisqu'après ces deux affaires, ça explique bien qu'il y a complot et que donc en détruisant, en intervenant en Tunisie, on mettra fin au complot, et c'est ce que les Français expliquent aux Anglais pour justifier l'intervention française. Il y va de pour notre position en Algérie d'un intérêt aussi sérieux que l'est pour l'Inde anglaise, le maintien de la liberté et de la sécurité de ses communications avec la métropole. Nous respectons loyalement au profit de l'Angleterre cet intérêt de premier ordre sur le canal de Suez et dans la mer Rouge. Nous devons compter que par une juste réciprocité, les Anglais respectent notre entière liberté d'action à Tunis et nous laissent mettre de pourvoir sur un point aussi essentiel pour nous à toutes les nécessités de notre politique. Donc, le 7 avril 1881, Jules Ferry obtient pratiquement sans opposition le vote des crédits extraordinaires pour financer une opération qui est présentée seulement comme une opération de rétablissement de l'ordre sur les frontières de l'Algérie. Le 24 avril, les troupes françaises franchissent la frontière tunisienne et ne rencontrent guère de résistance. Le 12 mai, le bey de Tunis doit signer le traité du Bardo, qui impose un protectorat français sur le pays. Les opérations militaires sont rapidement terminées et une grande partie des troupes sont rapatriées en métropole, la France ne conservant qu'un dispositif léger d'occupation, mais nous aurons l'occasion de revenir. En juillet 1881, les tribus tunisiennes vont se révolter, ce qui impliquera en fait une véritable campagne militaire de longue durée pour faire la véritable conquête de la Tunisie, qui va durer une bonne année jusqu'en mai 1882. Ceci est important pour comprendre les détails chronologiques parce qu'il faut donc penser que la guerre de Tunisie va aller de juillet 1881 à mai 1882. Alors, les armes britanniques avaient protesté, mais les Français avaient répondu, on a fait que ce que vous avez accordé à Berlin par le biais de Lord Salisbury. Et si vous êtes continué à protester, on rend public l'engagement de Lord Salisbury. Et donc, les Anglais sont obligés, non pas de se taire, mais comme dit Lord Grenville qui est secrétaire au Foreign Office, ils doivent se contenter de devoir aboyer sans pouvoir mordre, ce qui est aussi une définition souvent de la diplomatie européenne de nos jours. Et on fait porter la responsabilité de la crise sur le gouvernement précédent, ce qui est évidemment une règle générale. Et surtout, les Anglais disent d'accord pour la Tunisie, mais allez pas plus loin. Si vous envahissez la Tripolitaine et la Cyrénaïque, vous remettez en cause l'accord de parité entre la France et la Grande-Bretagne sur l'Égypte. Alors, lors du débat de ratification du traité du Bardo, Clémenceau, au nom de l'opposition républicaine, s'en est pris au fait accompli qui ne correspond pas à l'opération de police qui a été annoncée. Ici, ce sont deux croumires. Les orateurs de l'opposition s'inquiètent du risque de brouille avec l'Italie, du danger de mécontenter les musulmans et les ottomans, et marquent le peu d'intérêt de la conquête coloniale pour un pays qui n'a pas d'excédent de population. C'est-à-dire, la France n'a pas d'excédent de population, alors pourquoi conquérir des territoires si on ne peut pas les peupler ? Mais il n'y a pas de véritable débat de fond. Lors du vote, les opposants se contentent de s'abstenir plutôt que de voter contre. En revanche, célèbre polémiste, donc à l'occasion de revenir dans la suite du cours sur lui, Henri Rochefort, lance une campagne de presse mordante, ironisant sur l'existence des croumires. La phrase est célèbre. Une chose à la fois étrange, folichonne, translunaire, et à laquelle on n'a pas assez réfléchi, c'est qu'il n'y a pas de croumires. Le cabinet Ferry offrirait 30 000 francs à qui lui procurait un croumire, afin de pouvoir le montrer à l'armée. Et pour en finir avec les croumires, leur dernière apparition, c'est parmi l'un des 500 jurons du capitaine Haddock dans Tintin. En dehors de ça, je crois qu'on n'en parle plus d'eux. Alors, en dehors de l'invention des croumires, la presse radicale française évoque des intérêts financiers occultes qui seraient derrière la campagne de Tunisie, et l'insurrection de l'été 1880 va servir de prétexte aux radicaux pour essayer de faire tomber Jules Ferry. On fait campagne sur le fait de savoir s'il s'agit d'opérations de police ou d'une véritable guerre, mais ce n'est pas une distinction vaine. Si c'est une opération de police, la Croix-Rouge n'a pas à intervenir. Si c'est une guerre, la Croix-Rouge, qui a 20 ans d'existence, peut intervenir. Donc la question du statut juridique correspond aussi. Mais en règle générale, la Croix-Rouge n'intervient pas lors des grandes expéditions coloniales européennes. Elle intervient dans les guerres ottomanes, mais non dans les expéditions coloniales. Et en réalité, la Croix-Rouge n'apparaîtra sur un champ colonial qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lors de la tentative de réoccupation de l'Indonésie par les Néerlandais en 1946-47. Ce sera la première intervention non européenne de la Croix-Rouge sur un théâtre dit d'opération, en tout cas, colonial, voire ex-colonial. C'est-à-dire que la Croix-Rouge ne peut intervenir que là où il y a des États reconnus. S'il n'y a pas d'État reconnu, il n'y a pas de Croix-Rouge. Le dernier grand débat parlementaire de 1881 aura lieu au début du mois de novembre, lors de l'entrée en fonction d'une nouvelle Chambre des députés. Et Jules Ferry va ainsi défendre sa politique. Je cite: l'expédition de la Tunisie, c'est la France qui la faisait, c'est la France qui la voulait et qui l'a acclamée. Rumeur sur différents bancs de la gauche. Elle l'a acclamée non pas comme une promesse de victoire militaire, de ces victoires faciles du fort contre le faible, mais par un sentiment plus élevé, comprenant fort bien qu'il y avait là un grand intérêt national à sauvegarder et qu'en allant en Tunisie, elle faisait un pas de plus vers l'accomplissement de la tâche glorieuse que ses destinées lui ont confiée. Le triomphe de la civilisation sur la barbarie, murmure à droite, puisque je vous rappelle, la droite est anticoloniale dans cette période. la seule forme d'esprit de conquête que la morale moderne puisse admettre. Donc, rappelez-vous, ce fait fondamental dans les premières décennies de la Troisième République, ce sont les républicains qui font l'expansion coloniale et la droite monarchiste conservatrice est hostile à cette expansion coloniale. Alors, ensuite, il y aura des glissements dans la vie politique française qui changeront les positions, mais c'est un point qu'il faut rappeler. Et donc, Jules Ferry continue en justifiant l'expédition de Tunisie comme la lutte contre le fanatisme musulman. Croyez-moi bien que la cause de l'insurrection du Sud est ailleurs que dans le retrait d'une partie des troupes. Elle est beaucoup plus profonde que cela. Elle tient à un phénomène social dont nous sommes avisés depuis un grand nombre de mois par nos agents diplomatiques en pays musulmans. Ce soulèvement tient à la profonde agitation qui règne dans l'islam depuis la guerre de Russie contre la Turquie, c'est-à-dire depuis 1877. Du fond de Sahara jusqu'à la frontière algérienne et sur toutes les rives de la Méditerranée, aussi bien par le massacre de Saïda que par le massacre de la mission du colonel Flatters que par les entreprises du calife à Constantinople, le réveil du fanatisme musulman depuis 1877 est attesté comme fait patent, certains croissant en importance. C'est ce qui me permet de dire que la France, en faisant pour sa propre défense ce qu'elle a fait en Tunisie, ce qu'elle y a fait encore, à l'heure qu'il est, a apporté à cette renaissance du fanatisme musulman un coup mortel qu'elle a rendu ainsi un nouveau et capital service à la cause de la civilisation qu'elle sert depuis si longtemps. Rumeurs et interruptions à droite, mouvements divers, puisque c'est la droite qui conteste et pas la gauche. Et donc, évidemment, ce grand discours de 1881 peut ressembler à certains discours tout à fait contemporain. En tout cas, la séance a été extrêmement mouvementée puisqu'il y a eu 23 propositions d'ordre du jour motivées qui ont été rejetées jusque finalement Gambetta qui fait adopter l'ordre du jour suivant. La Chambre résolue à l'exécution intégrale du traité inscrit par la nation française le 12 mai 1881 passe à l'ordre du jour. Donc on a voté sur l'ordre du jour, enfin on a voté un ordre du jour sur l'ordre du jour, et cela conduit évidemment Jules Ferry à démissionner et à laisser la place à Gambetta, qui est le véritable chef du Parti républicain, qui forme le 14 novembre 1881 ce qu'on va appeler le grand ministère Gambetta, qui sera très court puisqu'il va durer jusqu'au 30 janvier 1882. Alors, l'échec de Gambetta, ce n'est pas tellement un échec, nous le verrons, sur la question coloniale, que sur le fait que la République des Républicains ne veut pas d'un exécutif fort. Donc, on use ces grands leaders comme Jules Ferry ou Gambetta pour empêcher la constitution d'un exécutif fort pour que l'Assemblée conserve les leviers du pouvoir. Donc, vous voyez, cette invasion de la Tunisie, elle est largement... Enfin, bon, elle était dans la logique de l'expansion française en Afrique du Nord, ça n'a pas de problème. Mais le prétexte, eh bien, c'est l'invention du panislamisme comme complot qui n'a aucune réalité, bien évidemment. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, par ailleurs, un mouvement panislamique, mais pas dans l'affaire tunisienne. Reste ensuite... Alors, maintenant, nous changeons, nous revenons à la Syrie, avec la seconde mission Torcy, rappelez notre brave capitaine de Torcy. Torcy est là parce que les Français sont plus calmes maintenant que Médad Pacha est tombé, que Lagarde a été rappelé. Et maintenant, on passe de la défensive par rapport au projet supposé des Britanniques sur la Syrie, à plus ou moins une offensive. Les Français veulent consolider leur influence sur cette Syrie, et dans ce but, au printemps 1881, le capitaine de Torcy se trouve chargé d'une nouvelle mission, dont la version officielle, c'est la constitution d'un réseau ferroviaire syrien Et la raison officieuse, c'est de continuer à prendre le contact avec les druzes du Oran et les ansariés, les alaouites de la région de Latakia, puisque dans la ligne fixée par le premier rapport Tarsi, le but est de transformer ces deux minorités musulmanes en vecteurs de l'influence française en Syrie. Donc le capitaine de Tarsi est d'autant mieux reçu par les autorités provinciales que l'on connaissait ses relations avec le sultan et son rôle dans la déposition de Medhat Pacha. Il est arrivé au moment d'un mouvement de révolte des Druzes dans le Oran. Vous voyez là la carte, le Oran, c'est de l'autre côté du lac de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade. Comme ils sont classés parmi les alliés de la Grande-Bretagne, on attend du Français qu'ils soutiennent ouvertement la répression ottomane. Mais le Tarsi va plutôt tenter de rallier les Druzes aux Français et les faire quitter la protection britannique. Comme il explique, conquérir les Druzes, ce qui ne saurait être que le résultat de longs et persévérants efforts, il faut au moins leur témoigner intérêt et sympathie pour attirer à nous quelques-uns d'entre eux de façon à les affaiblir en les divisant d'intérêt. Mais quand il arrive à Damas, l'attaché militaire discute avec le consul de France et considère qu'il ne veut pas risquer de compromettre mon uniforme et jusqu'à un certain point l'ambassade dans une aventure. Et donc il renonce à se rendre dans le Oran et le consulat de France offre sa médiation entre les révoltés druzes et les autorités ottomanes. De même, quand Tarsi va dans la région de Latakia, il essaye de contacter les représentants des Alaouites. Ça marche très mal. Il rencontre d'abord à Damas un grand cheikh alaouite qu'il rencontre, cheikh Abdelkader, qui est toujours l'ami des Français et pensionné des Français. Donc c'est normal que l'attaché militaire français rendent visite à Abdelkader pour discuter avec des chefs alaouites. Ce chef qui depuis longtemps souhaite l'appui de la France et qui en 1880 m'avait envoyé son fils à Amma pour m'inviter à aller le voir dans la montagne a paru extrêmement embarrassé vis-à-vis de nous et tout en protestant de son regret de ne pouvoir me recevoir et de son désir que j'y fasse une visite à son fils nous a semblé assez désireux que je n'accepte pas cette invitation. Il m'est revenu en effet d'autre part que depuis l'année dernière, Arwash B, donc ce B à la 8, lassé de l'indifférence de la France et circonvenu par son médecin, le Druze Tusnis, ancien élève de l'école de médecine protestante de Beyrouth, donc du Syrian Protestant College, aurait marqué l'intention de se rapprocher des Anglais. On m'assure même que les protestants ont déjà obtenu de lui de créer une école à Loctin, sa résidence. Là, vous voyez la concurrence entre les missionnaires américains et les missionnaires catholiques français. En raison de ces déconvenues, la nouvelle mission du capitaine de Tarsi se limite à être une reconnaissance géographique et militaire de la Syrie centrale et le rapport final aboutit à des conclusions négatives. Le commerce de Damas est en pleine décroissance du fait de l'ouverture du canal de Suez, qui a détourné une partie du trafic terrestre. La richesse locale épuisée n'appelle plus à elle les produits qu'elle ne consomme plus, et Damas s'éteint peu à peu. Le seul débouché de la Syrie, c'est Beyrouth, et la construction d'une ligne ferroviaire Beyrouth-Damas imposerait des travaux considérables du fait du relief élevé du mont Liban et de l'anti-Liban. Le seul intérêt pratique serait l'ouverture d'une route carrossable entre Damas et Homs. Un chemin de fer serait onéreux, difficile et sans intérêt. En revanche, il serait intéressant d'ouvrir une ligne de chemin de fer entre Tripoli, Homs, Hama et Alep, cette dernière ville permettant d'accéder facilement à la vallée de l'Euphrate. Les obstacles créés par le relief y sont nettement moins importants. Alep connaît le même déclin que Damas, mais du fait de sa position géographique, une communication ferroviaire avec la Méditerranée pourrait relancer son commerce. Donc les conclusions sont plutôt négatives, mais finalement ce réseau de fer, on aura l'occasion de voir les années suivantes, les prochaines années, se fera progressivement et sera pratiquement achevé à la veille de 1914. Et l'autre idée était de faire un chemin de fer de Damas à Aqaba sur la mer Rouge, mais là encore, les difficultés techniques sont importantes et surtout, l'intérêt économique est nul. Ce chemin de fer, dont le prix serait relativement considérable, n'aurait donc qu'un intérêt politique pour la Turquie en lui permettant de communiquer avec l'Arabie sans être obligé d'emprunter la mer Méditerranée, qui peut lui être fermée facilement. Nous ne croyons pas que la Turquie soit en état de faire cette dépense, mais il serait peut-être bon, si c'est à elle qu'il faut s'adresser pour obtenir l'autorisation d'effectuer les lignes utiles que nous avons signalées, d'indiquer comme réalisables celles d'Aqaba. Et nous verrons un de ces jours toute la crise d'Aqaba en 1906, justement, à propos de l'arrivée du chemin de fer du Hedjaz sur la mer Rouge. Alors, le fait même que les derniers rapports se limitent à des études géographiques sur le commerce et le chemin de fer montre que l'on s'éloigne des considérations politiques envisagées l'année précédente. Les études démontrent que la mise en valeur de la Syrie nécessiterait des sommes considérables pour des rendements aléatoires. Même les routes carrossables qui nécessiteraient des péages pour en amortir les coûts seraient victimes de la concurrence des caravanes. Il faudrait donc que le pouvoir leur assure le monopole de la circulation pour qu'elle soit rentable. Donc, on abandonne ces grands projets d'infrastructures terrestres français. Il est assez clair que si encore des journalistes évoquent un immense chemin de fer reliant l'océan Indien à la Méditerranée, ce qui sera la tarte à la crème de toute l'affaire du Proche-Orient jusqu'en 1914, puisque le dernier, ce sera le fameux chemin de fer de Bagdad. En 1881, on en revient à une politique dite levantine de protection des régions côtières, avec la priorité donnée au soutien des congrégations missionnaires catholiques. Alors, après le rappel de Midat, le pouvoir central ottoman a pris au sérieux la menace d'un soulèvement arabe dans les provinces syriennes. Le moindre mouvement de tribus bédouines ou de soulèvements locaux provoque inquiétude et spéculation. Et évidemment, l'arme utilisée par Abdul Hamid, ça va être le recours à l'islam pour maintenir tout simplement ses propres sujets dans l'obéissance. Et donc, dans le second trimestre de 1880, Abdul Hamid insiste de plus en plus sur ses titres califaux. Et il se plaint auprès de l'ambassade de France des campagnes de presse, de la presse arabe publiée en France, qui contestent l'existence et la légitimité du califat ottoman. J'ai déjà insisté sur ce rôle important que joue cette presse d'opposition en exil, publiée en arabe et en turc, en France et en Grande-Bretagne, depuis le début des années, enfin, depuis la fin des années 1870. Alors, c'est dans ce contexte qu'à la fin de 1880 et au début de 1881, de nouveaux placards sont affichés à Damas et à Tripoli. Nous n'en avons que la traduction française pour ces placards, parce que c'est sources consulaires qui nous ont donné l'information. On y parle de compatriotes syriens et on se prend avec véhémence à la tyrannie des Turcs qui refusent l'usage de la langue arabe, qui gèrent mal les biens religieux waqf et qui ont usurpé le califat. Donc là, on a le thème du califat. On appelle une indépendance en commun avec les frères libanais à l'emploi de l'arabe comme langue officielle et l'emploi des soldats au seul service de la patrie, ça veut dire en clair ne pas les transporter en dehors des provinces syriennes pour aller se battre sur le Caucase ou dans les Balkans. Alors, comme d'habitude, on a cherché les suspects habituels, donc le cercle des Boustani, Midat Pacha, mais ça ne peut plus être lui, le fait qu'on parle de Waqf et de services militaires laisse supposer qu'il y a des musulmans dans l'affaire. On soupçonne Abdelkader, mais sans preuve. Et finalement, on en revient au Makassid, c'est-à-dire aux sociétés caritatives musulmanes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fois, les placards de Beyrouth ont une thématique analogue à ceux des journaux d'opposition publiés en France et en Angleterre. Et là, automatiquement, on pense aux bailleurs de fonds éventuels de cette presse, qui sont Rereddin, le Tunisien, le prince Alim, l'Égyptien, ou l'ex-Khedive Ismaïl, en exil en Italie. Les historiens du XXe siècle, comme je l'ai dit, ont voulu voir dans la seconde série des placards une manifestation de nationalisme arabe. C'est vrai que cette fois, on parle de l'usage de la langue arabe, mais l'inspiration reste encore syrianiste. La question du califat revient dans la correspondance diplomatique à l'occasion du décès du shérif de la Mecque en mars 1881. Et à cette occasion, le gouvernement hollandais, qui, je rappelle, la Hollande possède ce qu'on appelle à l'époque les Indes néerlandaises, c'est-à-dire l'actuelle Indonésie, donc un pays de très grande population musulmane. Donc la Hollande a appelé les gouvernements français et anglais à une démarche commune auprès d'Abdul Hamid pour que l'on nomme un shérif qui ne soit pas trop fanatique. Et donc la démarche diplomatique des trois puissances européennes a eu lieu à Constantinople. Tout ça dans le contexte où les Français combattent le pan-islamisme, comme toujours, en Tunisie. Mais en avril 1881, là arrive une nouvelle série de placards à Beyrouth, Khartoum, Bagdad et, paraît-il, même en Algérie. Alors là, pour une fois, nous avons le texte arabe du placard, ce qui nous permet de mieux saisir le sens du mot, puisqu'il s'agit alors là clairement d'un manifeste de la nation arabe, Al-Umma, Al-Arabiya, qui s'adresse aux musulmans en affirmant que la nation arabe, chrétienne et musulmane, endure toutes sortes d'iniquités de la part des Turcs. Alors que le pays est en friche du fait de leur mauvaise administration, les Turcs demandent de nouvelles dépenses, soi-disant pour défendre les intérêts. Les Turcs ont opprimé leurs sujets bulgares, grecs et autres, qui sont maintenant libérés, d'où le fait qu'ils se tournent maintenant vers la nation arabe. Les Turcs ont combattu les Russes avec l'argent et le sang des Arabes sans les récompenser. Ils les accusent même de lâcheté. Aucun Arabe ne peut accéder au grade supérieur de l'armée. La proclamation s'adresse ensuite aux musulmans dans la même tonalité de l'incapacité et de l'oppression des Turcs qui dépensent leur argent pour leur plaisir et non pour la défense des musulmans. On compare leur sort malheureux à celui des peuples des Balkans qui se sont rendus indépendants et aux Libanais et aux Égyptiens qui gèrent leurs propres affaires. Et maintenant, le texte se termine par un appel non plus aux Arabes, mais aux musulmans. Musulmans, vous êtes un peuple, Kaoum, de héros arabes prêts pour l'indépendance. Et ils insistent sur la commune identité syrienne des chrétiens et des les Arabes, vous chrétiens syriens, souriyin, unissez-vous avec les musulmans et préparez-vous à regagner votre liberté et vos agresseurs. Et la déclaration est signée par la Société de la sauvegarde des droits de la nation, Mellah, arabe. Alors là, pour la première fois, on a un texte clairement de nationalisme arabe. C'est la dernière série des placards. Il n'y en aura plus. Ensuite, Et on a déjà, pour ceux qui connaissent la langue arabe, pratiquement tout le vocabulaire politique du XXe siècle se trouve énoncé dans ce texte du 19 mars 1881. Alors, si le vocabulaire est précis, il est clair que les identités, elles, restent encore relativement floues. Ce qui est notable dans le texte, c'est la comparaison entre les Balkans et le Proche-Orient, et l'opposition entre Arabes et Turcs. Ce que l'on peut saisir de sérieux, enfin de solide dans l'affaire, c'est qu'il est bien clair qu'aux alentours de 1880, la distinction entre Arabes et Turcs devient de plus en plus nette, même si elle ne prend pas un sens directement politique. Mais ça explique aussi pourquoi Abdelhamid pousse justement à l'affirmation califale. C'est pour empêcher cette distinction de prendre un sens politique, puisqu'il a, dans l'autre côté de l'Empire, il a le même problème. Parce qu'il y a un autre peuple dans l'Empire qui est composé de musulmans et de chrétiens, ce sont les Albanais. Et 1880-1881, c'est l'époque de ce qu'on appelle la Ligue de Prizren, c'est-à-dire de la première manifestation de nationalisme albanais, même si l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a synchronie entre l'affaire albanaise et l'affaire arabe en 1881, exactement d'ailleurs comme on la retrouvera en 1911-1913, cette synchronie entre Albanais et Arabes, c'est-à-dire les deux peuples de l'Empire qui sont majoritairement musulmans, mais qui ont une composante chrétienne. Parce que les autres ne posaient pas de problème. Enfin, contre les autres, les Bulgares, les Serbes, etc., ils étaient intégralement chrétiens à 100%. Donc la question confessionnelle et la question ethnique étaient confondues, tandis que si vous avez des peuples qui sont à la fois musulmans et chrétiens et qui se distinguent des Ottomans, à ce moment-là, c'est autre chose. D'où donc cette idée d'unité islamique. Donc, c'est plus le sultan insiste sur l'unité islamique, plus les Européens voient le complot pan-islamiste, ce qui est tout à fait logique. Et si la religion peut servir de ciment à la cohésion de l'Empire, le premier facteur reste malgré tout celui des finances. La banqueroute ottomane avait été l'une des grandes faiblesses de l'Empire lors de la guerre russo-ottomane. Mais paradoxalement, la dette ottomane avait contribué à la survie de l'Empire. Parce que quand vous devez de l'argent, vos créanciers ont intérêt à vous maintenir en vie. C'est une vieille règle, donc si vous voulez survivre, il faut faire des dettes. Les créanciers donc constituaient des lobbies, des groupes de pression relativement importants. Donc dès 1879, l'Empire ottoman avait repris un paiement partiel des intérêts de la dette, et puis ensuite on fait de longues discussions diplomatiques, négociations diplomatiques à plusieurs acteurs entre les différentes puissances européennes et l'Empire ottoman, qui aboutirait à ce qu'on appellerait aujourd'hui air cutting en anglais, c'est-à-dire une réduction de dette. C'est ce qu'on appelle le décret de Muharrem en décembre 1881. Donc on opère une réduction de la dette en opérant une conversion qui ramène les emprunts à leur valeur d'émission, c'est-à-dire ceux qui perdent dans l'affaire, ce sont les porteurs de des coupons de la dette, mais pas les banques qui ont vendu les coupons de la dette. Mais on explique aux détenteurs de la dette ottomane qu'ils sont bien heureux de pouvoir, grâce à la réduction, être payés pour ceux qui restent. C'est ce qu'on explique aux Grecs aussi, parce que c'est à peu près le même système. On on fixe les taux d'amortissement et d'intérêt. Ensuite, le gouvernement ottoman cède de façon irrévocable jusqu'à l'extinction de la dette un certain nombre de revenus qui seront gérés par une administration de la dette dirigée par un conseil de 7 délégués, 2 créanciers, ce qu'on appellera la caisse de la dette. En raison de l'importance des titres détenus par la France et la Grande-Bretagne, le président de la caisse de la dette sera alternativement un Français et un Anglais. Et il y aura 7 délégués qui dirigeront la caisse de la dette. Donc, l'Empire ottoman se trouve dépossédé d'une part importante de ses revenus, qui sont maintenant contrôlés directement par les étrangers, en particulier la régie des tabacs. C'est donc un État dans l'État, sous contrôle financier européen, qui est établi. Et le sel et le tabac vont constituer, eux deux, 60% des revenus de la caisse de la dette. Alors, inversement, le bénéfice ottoman, c'est que l'Empire peut revenir sur les marchés financiers, puisque sa notation a été améliorée par la création de la caisse de la dette. Alors maintenant, nous allons aborder un nouveau chapitre qui va nous occuper, je pense, jusqu'à la fin des séances de cette année, qui est l'affaire extrêmement complexe de la, entre guillemets, révolution égyptienne de 1881-1882, et qui est évidemment la dernière étape de la grande crise d'Orient qui a commencé en 1876. Bon, on a vu la vague qui s'est arrivée à la déposition de Medhat Pacha et des placards de Beyrouth, et maintenant nous glissons géographiquement vers l'Égypte. Donc en Égypte, vous vous rappelez, on avait imposé une loi de liquidation de la dette égyptienne qui avait là aussi fait une réduction des intérêts et une consolidation. Et l'Égypte est maintenant gouvernée par le Khedive Tewfik, le fils d'Ismaël. Mais l'homme fort, c'est Riaz Pacha, qui est ce qu'on pourrait appeler un réformiste autoritaire. Donc, c'est un personnage très singulier qui est Riaz Pacha, parce qu'on l'a régulièrement, pas accusé, mais on a régulièrement insinué qu'il se serait un juif levantin converti à l'islam, mais on n'a aucune sûreté sur cette information, sauf que ça montre qu'il est d'origine assez humble, voire assez inconnue, et qu'il a accédé au poste de président du conseil en Égypte de façon plus importante. Mais Riaz Pacha est aussi un sincère musulman, et il a été le patron à moins un moment des réformistes musulmans en Égypte, puisqu'il avait entre autres financé Jamal ed-Din al-Afrani, avant ensuite de l'expulser d'Égypte. Il est incontestablement qu'au début de 1880, la situation en Égypte s'est améliorée et le pouvoir a un certain nombre de signes de popularité. Quand le Khedive fait des tournées provinciales, les populations l'applaudissent, ce qui semble positif. Mais la source des mécontentements, c'est l'ampleur du prélèvement fiscal qui pèse sur la campagne égyptienne pour financer le paiement de la dette. Ce n'est pas directement le fellah à la base qui en souffre, ce sont les petits, moyens et grands propriétaires fonciers qui, eux, en souffrent. Et comme par ailleurs l'amélioration de la bureaucratie égyptienne dans cette période de réforme autoritaire de Riaz Pacha fait que les impôts sont levés plus régulièrement, donc ça augmente les protestations anti-fiscales. L'Égypte se trouve sous un contrôle franco-britannique, c'est ce qu'on appelle le condominium, ce qui explique pourquoi l'Égypte, on n'a pas discuté de l'Égypte au congrès de Berlin, condominium, puisque c'est les Français et les Anglais qui détiennent la plus grande partie de la dette égyptienne, et qu'il y a deux contrôleurs des finances qui contrôlent l'ensemble des finances, un Français et un Anglais, et ils ont rang de ministre. Et par ailleurs, un certain nombre de fonctionnaires européens, français, anglais en majorité, ont été placés à des postes de commande de l'administration égyptienne. Alors évidemment, si on envoie des hauts fonctionnaires européens gérer l'administration égyptienne, c'est pour en améliorer le fonctionnement. Mais il faut bien comprendre que si vous mettez d'un côté un fonctionnaire britannique et de l'autre côté un fonctionnaire français, le dysfonctionnement est pratiquement assuré parce qu'ils ont deux cultures administratives complètement opposées. Et cette invasion de la haute fonction publique par les fonctionnaires européens provoque évidemment un mécontentement de l'ensemble de l'administration égyptienne. De même, il y a un groupe qui se sent particulièrement victime de cette invasion européenne, ce sont les Syro-Libanais, les Chawam. Parce que les postes que les Européens occupent, c'est les postes qui revenaient habituellement aux Chawam, aux Syro-Libanais. Et les Chawam étaient en bonne position jusque-là parce que c'était les seuls dans la région qui avaient une connaissance parfaite des langues européennes, en particulier le français, et un niveau de technicité suffisant. Donc, on a des successions de mécontentements. On a le mécontentement des propriétaires fonciers, on a le mécontentement des Syro-Libanais, ce qu'on peut appeler des Levantins au sens générique du terme. Alors, il y a le consul des États-Unis en Égypte à cette période a écrit un volume de mémoires qui sont tout à fait intéressants. Et il prétend, ce qui peut-être pas faux, que les traitements des 12 premiers fonctionnaires européens en Égypte équivaut à la totalité des dépenses de l'État égyptien en matière d'éducation. Ce qui montre l'ampleur du prélèvement qu'opèrent ces hautes fonctions publiques. Alors, ceux qui sont particulièrement mécontents, ce sont les officiers de l'armée égyptienne parce qu'ils souffrent des réductions de dépenses. Vous savez, ces gens qui vous disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires pour améliorer les finances de l'État. Et un certain nombre d'autres officiers ont été mis en demi-solde et souvent leurs demi-soldes ne sont même pas payés. Et d'autre part, dans l'armée égyptienne, il y a une tension forte entre les deux composantes du corps des officiers. Et historiquement, sous Saïd Pacha avait ouvert le recrutement des postes supérieurs de l'armée égyptienne aux Égyptiens de souche, aux Fallah. Mais Ismaïl était revenu à la pratique néo-mamelouk de faire venir des turco-circassiens des officiers qui avaient fait carrière et qui avaient progressé sous Saïd se trouvent bloqués dans leur avancement durant tout le règne d'Ismaïl. Et puis Ismaïl, en plus, avait fait venir, vous rappelez, des officiers américains de la guerre de sécession, y compris un général Stone Pasha, qui était devenu chef d'état-major de l'armée égyptienne. Et le tout avait conduit à la débâcle égyptienne en 1877, enfin, dans la guerre d'Abyssinie. Et donc le mécontentement dans l'armée égyptienne est très fort entre ceux qui n'ont pas payé leurs soldes, l'ineptie des officiers supérieurs à qui on doit la défaite devant les Éthiopiens, les officiers américains. Bon, alors les officiers américains, on n'avait plus les licenciés, à l'exception de Stone Pasha qui était resté. Les Mamelouks continuent de contrôler l'administration supérieure de la guerre. Donc c'est bien ce climat de tension-là. C'est là sur lequel il faut comprendre la complexité de la situation de 1881-82. Il y a bien une ligne de clivage entre les Turco-Circassiens et les Égyptiens de souche, mais ce n'est pas la ligne dominante. Enfin, dans les événements, une partie des Égyptiens de souche seront contre la Révolution et une partie des Turco-Circassiens passeront à la Révolution. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une délimitation franche dans les événements. Alors, les protestations sont élevées dans le corps des officiers qui grondent. Alors, ce que s'explique le consul de France en Égypte, le baron de Ring, sur la situation. S'il y avait, donc ça c'est une dépêche du 4 février 1880. S'il y avait eu un peu d'équité dans ce roulement, peut-être la révolte n'eût-elle pas eu lieu, car la dose de patience que le ciel a départie aux indigènes de l'Égypte est vraiment étonnante. Malheureusement, l'arbitraire déployé par le ministre de la guerre au profit de la caste mamelouque à laquelle il appartient a dépassé la mesure supportable même pour des fellahs. Jamais un officier turc ou circassien, époux d'une ancienne esclave du palais ou proche d'une odalisque, en activité de service dans le harem de tel ou tel personnage influent, n'était mis en demi-solde. Là, c'est un point essentiel. Nous avons encore en Égypte, aux alentours des 1880, ce qu'on appelle une politique du harem. C'est-à-dire le fait que, selon le mode de fonctionnement mamelouk, la promotion dans le milieu mamelouk se fait, est marquée par le fait que vous épousez une concubine, voire une ancienne épouse, voire une fille du maître. C'est ce qu'on appelle la politique du harem, qui structure depuis des siècles le milieu mamelouk. Et c'est ce qui se produit encore en 1880. Le malheur ne portait que sur les enfants du pays, considérés par tradition comme des êtres subalternes à la merci des conquérants. Mieux que cela, le haut de la caste dominante, qui forme l'entourage de Tewfik Pacha, en était venu à regretter que sous les derniers khédives, l'accès des grades militaires supérieurs eût été ouvert aux fils de Fellah. Cette atteinte à ses antiques privilèges constituait à ses yeux un scandale qu'il s'agissait de faire cesser au plus vite. Et ce que rappelle le baron de Rigg, c'est que le grade maximum que peut atteindre un fellah, c'est celui de colonel. Ensuite, tous les généraux sont turco-circassiens. Donc, à ce moment-là, au début de 1881, il doit avoir 450 à 500 officiers d'active et 1000 en disponibilité. Et la crise éclate quand le ministre entreprend de remplacer les colonels égyptiens par des turco-circassiens. Les colonels intéressés prennent peur et se réunissent secrètement sous la direction de l'un d'entre eux, Ahmad el-Ouabi, et pas Arabi, qui se fait le porte-parole des mécontents et qui présente au ministère de la guerre une pétition le 16 janvier 1881. Donc le texte montre l'adoption des idées nouvelles. Je cite « Lorsque l'avènement du Khédive fut connu dans toute l'Égypte, on proclama partout le règne de la justice. » Tous les enfants du pays se sentirent libres et débarrassés du joug du despotisme qui gouvernait notre patrie depuis plusieurs siècles et qui nous traitait avec l'arbitraire le plus absolu. De tout cela, nous l'avons rendu grâce à la Providence et nous l'avons supplié de nous assurer le succès dans cette voie nouvelle qui devait nous guider dans les principes de l'équité, de la liberté et de l'égalité entre tous les citoyens. Nous allons faire notre pause et nous reprenons dans 5 minutes, s'il vous plaît.